France Inter.fr. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Pop, etc. Avec Valérie sur France Inter.
Bonsoir et merci d'être avec nous dans Pop, etc. C'est la deuxième partie de notre série sur les Beatles à l'occasion des 50 ans de leur carrière et de la réédition de leur discographie en vinyle chez EMI. On continue sur le chemin de leurs albums. On a parlé de la première période de leur carrière qui a démarré avec le single Love Me Do en 1962 et on s'est arrêté avec Rubber Soul sorti en 65. Ce soir, on a une mission qui sur le papier relève de l'impossible, mais puisque nous n'avons peur de rien ni de défis. On parlera de trois albums, Revolver sorti en 1966 et deux albums sortis en 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et Magical Mystery Tour. J'avais besoin de renfort, quelqu'un qui non plus n'a peur de rien. Bonsoir Christophe Comte.
Bonsoir, bonsoir.
Difficile comme défi pour parler de ces albums-là.
Bah oui, mais bon, on va
y arriver. Il faudra une année, je pense. Vous êtes journaliste aux Un Rock. Le grand public vous a vraiment découvert avec votre billet dur hebdomadaire. L'anthologie de ces portraits acides sont réunis en livre aux éditions Ipanema. Il y aura aussi le témoignage de Chandrika Kasali. Elle nous racontera le jour où George Harrison a rencontré son maître Ravi Shankar. C'était chez elle, à Londres. Rubber Soul était un point de départ. On est dans la rupture. Après Revolver, les choses ne seront plus pareilles. Les gentils garçons de Liverpool ont beaucoup fumé la moquette après leur rencontre avec Bob Dylan. Les mœurs des 60s veulent qu'ils goûtent aux substances à la base de glycérique. John Lennon commis avec George Martin une des premières prouesses techniquement psychédéliques avec Tomorrow Never Knows. Il déclare à l'époque qu'il était influencé, certes, par l'acide et le psychédélisme, comme toute une génération, mais ce qu'il aimait avant tout, c'était le rock'n'roll.
I was influenced by acid and psychedelics, you know, like the whole generation. But really, I like rock and roll, you know.
We'll be right back.
Personnellement, je ne fais pas beaucoup de différence entre Rubber Soul et Revolver. Ils pourraient tout à fait être volume 1 et volume 2. Je me trompe peut-être, je n'ai pas fait d'études comparées, mais c'était vraiment deux disques très agréables à faire pour moi.
Pop, etc. avec Valley sur France Inter.
Et oui, c'était George Harrison. On parle des Beatles ce soir et notamment des albums Revolver, Sgt. Pepper's et Magical Mystery Tour. Christophe Comte, George le dit bien, Rubber Soul et Revolver, une page se tourne dans la carrière du groupe. Les chansons et les studios priment. D'ailleurs, le studio devient une sorte de laboratoire. On va briser des règles. Et l'assistant de George Martin et l'ingénieur de son, le jeune Jeff Emerick, en est pour quelque chose. Qui est-il exactement?
Alors, Jeff Emerick, c'est quelqu'un qui a tiré le gros lot parce qu'il était arrivé à Abbey Road comme assistant, mais vraiment tout petit assistant. Il était étudiant et je crois que par l'intermédiaire d'un ami de ses parents, il avait trouvé ce job qui était vraiment pour le coup très rudimentaire en 62. Et il voit débarquer un groupe parmi d'autres et c'était les Beatles. Donc il a vraiment assisté, mais comme une petite souris, aux premiers enregistrements des Beatles. Et au premier aveu, et puis petit à petit, il a gravi un peu les échelons. Mais à Abbey Road, il y a quand même, c'est vraiment une discipline assez rigoriste à l'anglaise. Donc on ne devient pas comme ça du jour au lendemain un ingénieur vedette. Donc il a vraiment, album après album, grandi un petit peu comme ça dans l'ombre. Il a vu travailler les Beatles. Il a appris le métier avec George Martin, avec les autres ingénieurs. Et puis petit à petit, alors il y a une période un peu douloureuse pour lui où, au moment de Rubber Soul, où il n'est pas du tout aux commandes, ni même il n'assiste pas parce qu'il est enfermé dans une salle où sont les magnétos. Et donc là, il ne voit pas le jour et il ne voit pas non plus l'enregistrement. Donc il est assez malheureux. Et sur l'album d'après, sur Revolver, on lui permet pour une fois d'être vraiment à la console et de pouvoir tenter des choses. Enfin, on ne lui permet pas, il va s'octroyer des libertés dans le protocole.
Oui, parce que George Martin est très rigide.
Alors,
il
George
est
Martin,
génie,
c'est,
mais...
vraiment, c'est vraiment la paratchik des studios EMI. Il est là pour que ça tourne. Et Beatles ou pas, il y a des conventions. Alors, Jeff Emerick raconte ça dans un livre absolument passionnant qu'il a sorti sur ses années avec les Beatles. Tout le monde là-bas portait des blouses blanches ou des costumes. Et il voit les Beatles se transformer. Évidemment, ils sont très bien habillés, ils sont à la mode. C'est vraiment le Swinging London. Et eux ont l'air de rien. C'est des jeunes. Ils ont le même âge qu'eux. Ils sont un peu plus jeunes. Ils se disent, nous, on a l'air de vieux. Eux, ils sont jeunes. Ils ont toute la gloire. Les filles tambourines autour des studios, et ce qui fait que voilà, il y a un vrai décalage. Et ce décalage-là, à un moment, le son des studios et le protocole des studios va devoir le rattraper par rapport à la, ouais, à ce qui est la musique en train de se construire.
Avec la façon d'enregistrer avec les multipistes, les automatic double tracking, enfin, dès le début, on peut trafiquer ce qu'on enregistre.
Il y a un événement assez important, c'est le fait que chacun des Beatles se paye avec leurs royalties un magnéto à bande qu'ils amènent chez eux. Et donc là, ils ramènent, ça leur permet d'écouter chez eux ce qu'ils ont fait dans la journée. Et donc ça va commencer à, comme ils ne savent pas très bien s'en servir, il y a un événement qui se produit à un moment, c'est John qui, sur l'enregistrement de la chanson Rain, qui met la bande à l'envers, et là, il entend ce que donne une bande à l'envers, et il se dit, tiens, c'est pas mal, c'est rigolo. Et donc, les bandes à l'envers, qui vont devenir vraiment la marque de fabrique de certains morceaux des Beatles, sont nés vraiment par accident, parce que chacun avait ce magnéto. L'autre événement lié à ces magnétos, c'est qu'en fait, Paul McCartney s'amuse, lui, à découper, on lui dit, il faut faire des boucles avec des bandes, et donc il s'amuse chez lui à découper des petites
c'est
boucles
nouveau,
comme ça.
C'est nouveau, ça, il faut le rappeler.
Voilà. Il arrive avec un sac en plastique, dans lequel il a découpé des petites boucles. Et c'est comme ça que certaines d'entre elles vont être réunies sur certains morceaux. Ce qui va donner le son assez incroyable de certains morceaux.
Et surtout de Tomorrow Never Knows qu'on vient d'entendre. Il y a des guitares à l'envers, etc. Et malgré toutes ces innovations, Paul décide d'impressionner sa fiancée, l'actrice Jane Asher, passionnée de Vivaldi. Ça donne ce qui devient un des deux singles de l'album, Eleanor Rigby, ici dans une version dépouillée.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do
La fabuleuse Eleanor Rigby, la face B du 45 tours de Yellow Submarine, qui figure aussi sur l'album Revolver. Les cordes ont été écrites, arrangées et dirigées par George Martin. Alors, ça rappelle beaucoup plus Bernard Herrmann, le compositeur fétiche de Hitchcock, que Vivaldi. En tout cas, sur cet album incroyable où le studio était le laboratoire, on avait quand même ces cordes fabuleuses.
Oui, parce qu'il y avait quand même ça aussi. C'est l'intrusion de certaines musiques qui étaient en dehors, a priori, du cercle de la pop. Mais ça, c'est une volonté de notamment de McCartney, de vraiment aller puiser ailleurs. Alors, évidemment, il y a aussi, via George Harrison, la musique indienne. Il y a tout un, enfin, les Beatles sont en train d'inventer l'histoire de la musique, de révolutionner absolument tout en même temps. C'est ça qui est assez fabuleux, parce que quand on a le recul aujourd'hui, on écoute et on dit oui, effectivement. Mais il faut voir qu'à l'époque, c'était pas évident, quoi, d'enregistrer par exemple un morceau comme ça avec un orchestre classique, parce que George Martin fait venir des musiciens classiques parce qu'il les connaît, parce qu'il est lui-même spécialiste du baroque, il a fait beaucoup d'enregistrements, mais les musiciens se bouchent les oreilles quand ils entendent ce qu'on leur fait jouer, c'est-à-dire que pour eux c'est pas de la musique. Alors là, sur Eleanor Rigby, c'est encore à peu près convenable pour eux. Plus tard, on verra que sur A Day in the Life, c'est carrément une hérésie, quoi, d'arriver à... Et alors aujourd'hui, évidemment, quand on voit tous les groupes font venir des orchestres et tout ça, c'est quelque chose qui est devenu complètement banal. À l'époque, les musiciens classiques ne se mélangent jamais avec les musiciens de pop. Et pourtant, les studios EMI sont autant un studio de musique classique, même plus, qu'un studio de pop. Il y a le grand studio, le studio 1, est un studio où on enregistre des orchestres à cordes. Donc, forcément, il y a tout ce qu'il faut sous la main. Il faut pouvoir les convaincre. Et je pense, a priori, c'est uniquement la popularité des Beatles qui est vraiment, à ce moment-là, à son zénith. Enfin, elle va l'être encore plus, mais là, ils sont vraiment sur le toit du monde. Et donc, voilà, ils peuvent se permettre ça, c'est-à-dire permettre à des musiciens classiques de rompre avec leurs habitudes pour venir jouer, s'encanailler à côté de ces hippies en devenir.
Alors, Lennon et McCartney sont tout puissants. Ce n'était pas évident pour George, par exemple, de s'imposer, parce qu'il a toujours été un peu peureux de proposer ses compositions, ou même s'il les proposait, des fois, ils étaient rejetés purement et simplement. Mais miracle, sur Revolver, il en place trois.
One, two, three, four. One, two.
Let me tell you. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Man. Yeah.
Taxman dans Pop, etc. Extrait de l'album Revolver, sorti chez Parlophone en 1966. George Harrison s'impose avec un sujet épineux, quelque chose de nouveau pour eux parce qu'ils viennent de working class, la classe ouvrière de Liverpool. Et le problème de gagner beaucoup impôts, d'argent en Angleterre. Ce sujet passe un peu en France aussi en ce moment, mais on dit rien. Alors, Ringo, juste pour terminer avec la façon d'imposer des chansons chez les Beatles, Ringo disait qu'il avait du mal aussi à placer des chansons parce que lui aussi, il écrivait de temps en temps à côté. Et les autres lui disaient qu'à chaque fois qu'il écrivait un morceau, ça ressemble à des standards de rock'n'roll, genre de Jerry Lee Lewis. Donc, à un moment, il a dit bon, ok.
Bah, c'est ce qu'il a fait après en solo. Hein. De toute façon, il s'est fait à peu près que ça pour Ringo. Mais bon. Là, ils lui ont fait cadeau de
Yellow Submarine.
Ils auraient pu s'abstenir. Hein, parce que c'est vraiment un peu la verrue sur ce disque qui est absolument
peut-être,
parfait.
Peut-être, mais c'était numéro un pendant longtemps.
C'est, là aussi, c'est aussi la chanson des Beatles préférée des Français.
Joey Starr, il le dit dans Rock and Folk de ce mois-ci. Étonnant, mais vrai. Alors, on recule un tout, on rebobine un tout petit peu. On parle
on met les bandes à l'envers, c'est ça?
Oui, on met les bandes à l'envers. D'accord. C'est vraiment le sujet du jour. Parce que Paul McCartney... via les Beatles, avait une espèce de concours avec Brian Wilson des Beach Boys. Ça commence en fait avec Rubber Soul, qui a beaucoup impressionné Brian Wilson des Beach Boys, et il écrit l'album Pet Sounds.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, mais qui est surtout due à la névrose obsessionnelle de Brian Wilson, qui se croit, lui, en rivalité avec les Beatles, alors que les Beatles... Et surtout, McCartney a une profonde admiration pour Brian Wilson. Il n'y a pas vraiment de compétition, ou alors elle est plutôt sympathique. Alors que Brian Wilson, lui, est vraiment dans une compétition assez étrange. Et donc, il sort Pet Sounds, qui est évidemment le disque qui, à l'époque, en 66, met tout le monde d'accord, sauf le public, mais en tout cas, qui est vraiment une innovation absolument fantastique. Et malheureusement pour lui, les Beatles sortent Revolver peu de temps après, et lui, ça le mine complètement, parce que voilà, il avait réussi à surpasser Rubber Soul, en tout cas, c'est ce que les gens arrivaient à lui dire. Et puis là, d'un coup, il se retrouvait avec un disque qui, pour lui, était largement supérieur au sien. Après, on peut en discuter, mais en tout cas, c'était son sentiment. Et donc là, il va se lancer dans ce chantier faramineux qui est Smile, dans lequel il va se noyer complètement. Et les Beatles, eux, feront Sgt. Pepper et réussiront porteront le coup de grâce à ce pauvre Brian Wilson.
C'est exactement ça. Et puis, on est en plein dans une des années les plus belles de l'histoire de la musique, 1967.
Nos prestations ont vraiment baissé en qualité. On ne peut pas s'améliorer si personne n'arrive à nous entendre. Donc, on a de plus en plus de mal à jouer en public. Si on ne nous écoute pas et si on ne s'entend pas nous-mêmes, alors on ne peut pas faire de progrès.
Et le travail sur ce nouveau disque a commencé avec Strawberry Fields Forever. C'était ce qui par la suite est devenu Pepper. Mais ce n'était pas encore Pepper. Personne n'en avait entendu parler. Ça allait être un disque enregistré en studio avec des chansons écrites par eux, impossible à jouer en live. Elles étaient conçues pour le studio. C'était toute la différence.
Paul McCartney en 1966, suivi du producteur George Martin, extrait de l'anthologie sortie chez EMI, je parle du film, la série, en 2003. Alors, La Bombe, vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe Comte, sorti 10 mois seulement après Revolver, au début du mois de juin en 1967. Pourquoi ce disque a-t-il fait si grand bruit et est-ce qu'il n'y avait que les Beatles qui pouvaient le faire?
Avec le recul, oui, forcément, parce que évidemment chaque album était une progression fantastique. C'est-à-dire que c'était vraiment des pas de géant à chaque fois. Et Sgt. Pepper, même si sur le long terme beaucoup de gens, disons, le mépriseront un peu, disant que c'était un disque peut-être un peu surfait, ça a été quand même là pour le coup en 67 le disque qui a lancé quand même le Summer of Love, parce qu'il est sorti le 1er juin. Et puis surtout, c'est un disque qui bouscule absolument toutes les conventions d'un 33 tours tel qu'on le connaissait à l'époque, qui venait de naître en plus, parce que le 33 tours, c'était quand même un objet assez récent dans le sens en tant qu'album. Les groupes faisaient des compilations de singles, mais pas d'albums. Là, c'est un véritable album dans le sens où il y a un début, il y a une fin, il n'y a pas d'espace entre les morceaux, donc déjà, c'est assez étrange. Personne n'a jamais fait ça. Il y a une boucle finale sur le sillon final, ce qui fait que le disque ne s'arrête jamais. Il y a tout un tas de petits gadgets. Il y a une pochette absolument incroyable qui a coûté une fortune, 3000 livres, je crois, rien que pour faire
oui,
cette session.
Oui, signée par Peter Blake, l'artiste Peter pop. Blake. Et puis photographiée par Michael Cooper, qui était vraiment une amie intime des Beatles.
Voilà, et donc là, on est en plein dans l'œuvre totale. C'est-à-dire qu'on a parlé un peu à tort de concept album à propos de Sgt. Pepper, qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas un thème central. Le thème, l'idée de McCartney, c'était comme le groupe avait arrêté la scène un peu avant, c'était se consacrer donc complètement à son travail en studio. L'idée de McCartney avec ce disque, c'est de dire on va inventer un groupe qui serait un peu nos doubles, qui réjouait à notre place sur scène. Évidemment, tout ça est un peu fantasmatique. Et donc, ils inventent ce fameux Sgt. Pepper Lonely Hearts.
Et on les retrouve après avoir enfin troqué leur costume de début imposé par Brian Epstein. Ils se retrouvent dans les costumes de satin aux couleurs acidulées.
Voilà, une fanfare, psychédélique. Voilà, il faut dire que l'influence des drogues est de plus en plus importante, hein, notamment chez John, parce que voilà, et le LSD qu'ils ont découvert quelques années auparavant commence à faire ses effets, on va dire. Il y a une scène d'ailleurs que raconte Geoff Emerick dans son livre qui est assez effrayante a posteriori. C'est au moment de l'enregistrement, je ne sais plus sur quel morceau, John Lennon est tout d'un coup pris d'une espèce de crise assez étrange. Il est totalement ailleurs, il n'y arrive plus. Il monte dans la cabine d'enregistrement et là, tout le monde voit qu'il n'est pas dans son état normal. Il a vraiment trop abusé du LSD. Et là, George Martin, qui ne comprend pas très bien ces choses-là, lui dit « Écoute, John, si tu veux, on va faire un tour dehors. » Donc, ils s'en vont, ils vont faire un tour. Et George Martin revient tout seul et les autres lui disent « Mais où est passé John ?» Il dit « Oh, ben, je l'ai laissé, il est sur le toit, en fait, puisque je l'ai laissé tranquillement, parce qu'il faut qu'il prenne l'air. » Et là, ils sont tous pris de panique en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, ils courent et ils retrouvent Lennon toujours dans son état, et donc il n'a pas sauté du toit, ce qui aurait été quand même un grand drame.
I believe I can fly.
Voilà. Et il a échappé de peu à ce moment-là à une vision un peu cosmique des choses. Mais donc ça prouve quand même que c'est aussi ce qui fait que McCartney va un peu prendre le pouvoir sur ce disque aussi.
Beaucoup de chansons de Sgt. Pepper ont été inspirées par l'environnement des membres du groupe, une affiche pour un carnaval, un paquet de Cold Flakes, le journal. Ce sont des faits divers qui ont inspiré deux des plus belles chansons de l'album, dont She's Leaving Home, morceau né d'une collaboration encore entre Lennon et McCartney et avec la harpe jouée par une certaine Sheila Bromberg, première femme à apparaître sur un morceau des Beatles.
Pop, etc. avec Valley sur France Inter.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy,
our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Sergeant Pepper, c'était un bon album. Mais j'ai appris à jouer aux échecs pendant l'enregistrement parce que j'avais tellement de temps libre. On jouait la base du morceau et puis on rajoutait d'autres trucs dessus, mais les percussions étaient doublées beaucoup plus tard.
Pour moi, ce n'était pas très marrant. Je me suis ennuyé. J'ai eu quelques moments à moi, mais en règle générale, je n'ai pas vraiment aimé cet album. Mon cœur était toujours en Inde. Et après l'Inde, tout me paraissait dur. C'était devenu un job, quelque chose que je n'avais pas vraiment envie de faire. Être un fab m'excitait de moins en moins à cette période.
Mon cœur était toujours en Inde et j'avais ma claque d'être une fab, en référence à l'appellation Fab Four. Ringo Starr et George Harrison, extraits de la série filmée Anthology, ils se sont ennuyés sur Peppers, un comble, car vu de l'extérieur, ça n'a rien d'ennuyeux. La musique dite World fait une apparition sur un album des Beatles, Rubber Soul, en 1965. George joue le sitar sur la chanson de John, Norwegian Wood. Chandrika Kasali est anglo-indienne, ex-mannequin photographiée par Guy Bourdin, Elmett Newton ou David Bailey dans les années 70. Elle vit et travaille en France depuis plus de 30 ans. Elle est née à Londres et elle y a grandi dans les années 50 et 60. Son père, Ayana Deva Angadi, était directeur de l'Asian Music Circle qu'il a fondé au début des années 50. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était cette association.
L'idée, c'était de promouvoir la culture, la musique, la danse de l'Inde et de l'Asie en Europe. Donc, il invitait des musiciens, des danseurs à venir en Europe. Il faisait des tournées avec eux. C'était quelque chose qui le passionnait et qui nous passionnait tous, parce que très souvent, ces musiciens vivaient chez nous. Il n'avait pas beaucoup d'argent et les gens ne connaissaient pas très bien la musique indienne ou la musique de l'Asie à l'époque. Et un soir, chez moi, j'avais 12 ans, on avait une grande maison dans la banlieue nord de Londres. Le téléphone a sonné et j'entends mon père qui a dit avec son accent, fort accent indien, il a dit « Who is this? Did you say bingo? Bingo? Bingo who? Ringo? Ringo ?» Et donc moi, à côté, en entendant parler de Ringo, je me suis dit « C'est pas possible, j'étais fan des Beatles et qu'un des Beatles appelle chez nous, c'était pas possible. » Et en fait, ils étaient en train d'enregistrer Norwegian Wood, où ils utilisaient pour la première fois un sitar, et ils avaient cassé une corde de sitar. On avait des instruments de musique chez nous, y compris un sitar. Donc on a dit oui, bien sûr, et on a enlevé des cordes, Et on est tous, c'est-à-dire tous, ma mère, mon père et moi, nous sommes descendus au studio de Abbey Road avec une corde de sitar. Mon père est entré dans le studio d'enregistrement et avec ma mère, nous sommes restés à la porte était entrouverte. Et là, Paul nous a vus et il a dit à mon père, est-ce que c'est votre famille, mais il faut qu'ils entrent. Et donc nous sommes entrés et là, j'ai vu les quatre qui étaient là en pause. Paul et John avaient étaient en train de jouer aux échecs. Et mon père était en train de parler avec George. Mon père s'est lancé dans un grand discours sur la musique, la culture indienne. Et il a dit à George, mais venez chez nous, écoutez de la musique, soyez le bienvenu, etc. Et donc, ils se sont échangés des numéros de téléphone. Et voilà, et quelques jours plus tard, nous lui avons proposé de rencontrer un musicien indien qui était de passage à Londres, un peu par hasard à ce moment-là, c'était Ravi Shankar. Et bien sûr, George connaissait, avait entendu parler de Ravi Shankar, mais il ne l'avait jamais rencontré. Et c'était chez moi, dans mon salon, que Ravi Shankar a fait la connaissance de George Harrison. George était venu avec son sitar dans un étui et il avait son pied sur le sitar, en fait, sur l'étui de son sitar. Et Ravi Shankar a dit, si vous voulez que je vous apprenne à jouer le sitar, la première leçon que je vais vous donner, c'est d'enlever votre pied de l'instrument de musique. C'était ça, sa première leçon.
Within You, Without You, chanson enregistrée avec des musiciens de l'Asian Music Circle, dont le père de Chandrika Kasali, que l'on a entendu juste avant, était directeur. George Harrison, avec l'Inde pleine la tête, qui a avoué cette ennuyé pendant l'enregistrement du cultissime Sgt. Pepper's. C'est assez incroyable, mais il faut rappeler que leur premier album en 1962, c'était 4 heures de studio pour enregistrer l'album et pour Sgt. Pepper's, 6 mois. Alors, le groupe pouvait disposer du studio 2 de EMI Studios, dit Abbey Road Studios, comme il voulait, et aussi de George Martin. Alors, pendant que George s'ennuyait, l'autre George Martin, en l'occurrence, John, Paul et quelques personnes dans l'entourage des Beatles, dont le roadie Mal Evans, bidouillé en studio. La chanson en question s'appelle A Day in the Life. Elle clôt l'album. Écoutez les coulisses de l'œuvre comme racontée par Martine en l'an 2000. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And then
On a relié les parties de John et Paul par une série de mesures vides de chaque côté de la section de Paul avant la reprise de John. Et on savait qu'il fallait qu'on trouve quelque chose de sensationnel pour remplir ces mesures. Mais on n'avait pas encore trouvé quoi. Pour garder ces 24 mesures et que personne ne soit perdu, ce bon vieux Mal Evans était debout au piano et comptait les mesures. Et en plus, il avait mis un réveil à la fin pour que tout le monde sache quand reprendre. Ils m'ont dit qu'ils voulaient une apogée musicale pour remplir ces mesures vides. Un orgasme sonore géant, partant de rien pour arriver à un bruit incroyable. Et voici ce qu'on a trouvé. Et grâce à ça, on a relié les deux parties de la chanson.
Ah là là, The Making of a Day in the Life sur France Inter dans Pop, etc. Christophe Comte, peut-on dire que c'est la dernière vraie collaboration entre John et Paul?
Alors, en tout cas, c'est une des dernières fois où leurs deux génies se retrouvent comme ça, emboîtés l'un dans l'autre, virtuellement non, d'ailleurs totalement littéralement, avec cette section de cordes au milieu absolument incroyable, une idée de McCartney quand même, qui était de faire jouer de la plus basse note à la plus aiguë. Là encore, les musiciens convoqués, ils étaient quand même plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine.
Parce qu'ils voulaient le double, mais George Martin a dit « c'est pas possible voilà, !»
Et tous étaient totalement horrifiés à l'idée qu'on leur demande, c'est comme s'ils étaient en train de s'accorder en gros. Et pour eux, qui avaient l'habitude de jouer de la musique symphonique, faire ce genre d'enfantillage, c'était totalement... Mais bon, finalement, ils arrivent à le faire et ça donne cet effet absolument incroyable. Le deuxième gros effet, c'est à la fin, la note de piano... Voilà, ils ont réquisitionné tous les pianos qu'ils pouvaient trouver à Abbey Road, y compris un ou deux pianos électriques, des orgues, et tout le monde a joué en même temps. Donc cette espèce de note comme ça qui dure, parce qu'une note de piano, ça ne dure jamais aussi longtemps. Donc c'est vraiment un effet assez incroyable. Et donc ça clôt ce morceau de façon totalement magistrale. Il y a vraiment là les deux génies de McCartney et de Lennon. Et aussi sur She's Leaving Home qu'on a écouté juste avant, on entend vraiment ce qu'ont pu apporter l'un à l'autre, parce que ça, à la base, c'est une chanson assez classique de McCartney sur une jeune fille qui a fait une fugue, et c'est Lennon qui lui propose et arrive à faire ce chœur un peu comme un chœur antique dans les tragédies grecques de ses parents qui lui parlent comme ça de manière un peu fantomatique. Et là, on voit vraiment ce que peut être le génie de l'un et de l'autre, et qu'on retrouvera malheureusement pas dans leur carrière solo, parce qu'ils se manquaient l'un à l'autre.
Absolument.
Et là, c'est vraiment, je trouve, ces deux morceaux sont l'illustration de comment ces deux personnes se sont rencontrées de manière comme ça, totalement... Enfin, il y avait quelque chose de télépathique dans leur génie respectif.
Une des chansons qui a été enregistrée pour figurer sur Sgt. Pepper's, en tout cas, c'était dans les mêmes séances d'enregistrement, et Strawberry Fields Forever.
Ça a commencé par ça, d'ailleurs.
Exactement, comme disait avant. George Martin, le mellotron nous amène direct à Liverpool.
Stand. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Strawberry Fields Forever, le magnifique Strawberry Fields Forever, les Beatles dans Pop, etc. Chanson que John Lennon écrit sur le tournage de How I Won the War de Richard Lester, tournée en Espagne. C'est une tribute à Liverpool, tout comme Penny Lane, écrite par Paul McCartney. Cette chanson sort en single, mais il n'est pas sur Sgt. Pepper's. Il figure sur une compilation, en fait, ce qu'on essaie de passer pour une BO de film, Magical Mystery Tour, sur une idée de Paul McCartney, Christophe Comte, où il y a des pépites absolument extraordinaires.
Oui, sur l'album.
Sur l'album, oui. On l'appelle aujourd'hui un album. C'était sorti
en fait,
d'abord
c'était
aux États-Unis.
EP, hein, voilà. C'était un double EP. Et comme aux États-Unis, ce format-là n'avait plus cours, ils ont sorti un album en le rallongeant avec les singles qui étaient sortis de la même période. Ce qu'il faut voir dans l'ensemble, c'est que les Beatles ont enregistré en gros 24 chansons en tout dans la parenthèse psychédélique et qu'elles sont disséminées sur plusieurs projets parce qu'ils avaient quand même une créativité assez débordante et donc on les retrouve comme ça un peu fragmentées. Strawberry Fields et Penny Lane étaient sortis en février 67 parce qu'il fallait faire patienter les gens et à l'époque c'est encore la petite rivalité avec les Beach Boys parce que l'album Smile devait sortir en janvier 67 et là pris un peu de panique, Brian Epstein avait dit il faut un single pour pouvoir éventuellement contrecarrer, puis il y avait quand même Good Vibrations
qui marchait fort
et donc ils ont sorti ces deux morceaux qui étaient les deux premiers enregistrés pour les sessions du futur album et aux grandes dames de George Martin qui dira toujours que c'était une aberration d'avoir privé ce disque de ces deux bijoux, mais en même temps bon voilà il y en avait d'autres et puis
il y a aussi All We Need Is Love qui était chanté en direct en Mondovision le 25 voilà. juin en 67 devant 400 millions de téléspectateurs. On a l'habitude aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de nouveau et ça donne définitivement les titres de Summer of Love à cette fabuleuse été en San Francisco. T'es en train de doucement mourir entre parenthèses et en parlant de mort, on reviendra voilà. sur le film. Brian Epstein, leur manager historique, meurt le 27 août 1967. John Lennon disait à l'époque, je savais que l'on était dans la merde, j'avais peur.
Et ils étaient en Inde en plus à l'époque. C'était un de leurs premiers pèlerinages avec le fameux Maharishi. Et donc du coup, ils se retrouvent voilà, totalement groggy par l'annonce du suicide de Brian Epstein. Et les conséquences de ça, bah, ça va être le Double Blanc, qui est l'album voilà, le double blême.
La prochaine partie voilà. de Pop, etc. Si je peux me permettre, je crois qu'ils n'étaient pas encore en Inde, mais ils venaient de voir pour la première fois le Maharishi. Je ne sais pas si c'était quelque part en Angleterre. Et ils ont appris... après une conférence de presse. On regardera tous les Beatles-ophiles. Ils vont nous écrire.
Ah, ils vont
vous
manquer,
inquiétez
là.
Pas.
C'est moi qui
ils, vont,
prendre,
ils vont nous corriger. Mais peut-être c'est moi qui ai tort, j'en sais rien. On va parler du film quand même avant de se terminer. On a peu de temps pour parler de ce film Magical Mystery Tour sur une idée de Paul qui en fait était une flop à l'époque. Pourquoi Christophe Comte ?
Alors, donc, le film a été diffusé le jour du Boxing Day en Angleterre.
Le 26 décembre.
Et le problème, c'est qu'il était diffusé en noir et blanc. Donc, c'est un peu quand même une aberration de diffuser un film qui est aussi coloré en noir et blanc. Et puis, je
conçu
pense
comme un trip, un vrai trip de l'acide, on
alors,
va dire.
Après, il faut nuancer, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Hein. On est plus proche de Bénil que des Monty Python quand même.
Oh, c'était génial. En plus, on voit I Am the Walrus dedans. Hein, quand
oui,
même.
Non, mais c'est bien, c'est sympathique. Mais enfin, ça reste, comme tous les films des Beatles, quand même très anecdotique. L'idée de départ était assez rigolote. Il y avait, ils étaient inspirés par les, bah, évidemment par les hippies californiens hein, qu'ils avaient vus peu de temps avant à San Francisco. Donc voilà, il y avait ce côté, le trip. Et puis les mystery tours, c'est quelque chose de très important à Liverpool. Il y a plein de bus comme ça qui partent. Alors généralement, ils ne vont pas très loin. Ils vont à Blackpool. Enfin, et les gens embarquent.
Qui est une station balnéaire
voilà,
sur les
pas,
côtes.
Voilà, ils ne savent pas où ils vont. Donc ils embarquent comme ça dans un bus. Donc McCartney s'est souvenu de ça et a dit on va faire le Magical Mystery Tour. Évidemment, avec ce côté psychédélique, cette espèce de bus voilà, qui traverse comme ça l'Angleterre.
Avec les personnages.
Avec des personnages.
La grosse tente de Ringo.
Non, mais c'est sympathique, mais enfin, je sais pas. Moi,
en tout cas, ça vient de ressortir en DVD. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est vrai que c'est pas les génies, mais
ce qui est assez génial dans le DVD, là, pour le coup, aujourd'hui, c'est qu'il y a un commentaire de Paul McCartney qu'on peut écouter en même temps si on veut se dispenser des dialogues assez navrants du film. Et c'est et c'est vraiment pour le coup assez intéressant de l'écouter. Puis il y a des chansons fabuleuses. Ça, pour le coup, c'est pas du tout une arnaque là-dessus. C'est vraiment
Baby, You're a Rich Man, Hello Goodbye. Bon, Hello Goodbye, c'est sympa. Bon, ouais. All You Deserve Strawberry Fields Forever. The Fool on the Hill, qui est écrit par Paul, bien sûr. Your Mother Should Know, fabuleux.
Et puis I'm the Walrus, quand même, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de Lennon.
On va peut-être l'écouter tout à l'heure.
Bon,
on verra. En tout cas, George, en voyage en Californie avec sa femme Patty Boyd, pendant l'été 67, écrit le titre Blue Jay Way, inspiré par le retard de ses invités dans les collines de Los Angeles. Je propose d'écouter ce soir dans Pop, etc.
There's a fog upon LA. Friends have lost their way. We'll be over soon, they said. Now they've lost themselves instead. Please, God. Very long.
Merci Christophe Kohn d'être venu ce soir dans Pop etc. Je viens de réaliser que j'ai passé trois chansons de George Harrison ce soir.
Ah, on voit où vont vos préférences.
Ah bah j'en sais rien, mais je me rends compte. Billet dur est disponible aux éditions Ipanema. Les In Rock Best of de l'année est en kiosque, on ne peut pas le rater. Les femmes sont en couve nu. La discographie en vinyle, les Beatles sont sortis chez EMI, une fabuleuse collection à posséder et à toucher. Il y a beaucoup d'autres informations liées à cette émission. Rendez-vous sur notre site, tapez franceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en streaming ou la podcaster. Et enfin, on ne pouvait pas se quitter sans un petit clin d'œil à notre générique.
And now we're gonna play pour finir, on va jouer un morceau de Magical Mystery Tour, qui est un de mes disques préférés parce qu'il est très bizarre. Et le morceau, c'est I Am The Walrus, un de mes morceaux préférés, parce qu'il est de moi, bien sûr, mais aussi parce que toutes ces petites choses qui le composent seront toujours intéressantes, même dans un siècle.
John Lennon, I Am The Walrus. Notre version est signée Freddie McCoy. La semaine prochaine, puisqu'il a eu 40 ans cette année, Ziggy Stardust de David Bowie, avec le coproducteur de l'album Ken Scott. Pop, etc. a été réalisé par Antoine. Je suis en train de basculer avec vos conneries d'Abrowski, avec Benjamin de la Gâtinée. Elle a été préparée par Corinne Valente et Caroline Rousseau. Les voix de John Paul George, George et Ringo sont de D'Abrowski, Stephen Paoli, Pascal Dervieux, Eric Oswald et Lionel Thompson. Très très belle nuit, très belle fête sur France Inter.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.